Bonjour, bonjour, très chers auditeurs. Vous êtes bien sur la web radio du lycée Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Au programme aujourd'hui, nous allons dans un premier temps prendre conscience de l'actualité avec un petit flash info présenté par Loïc. Nous enchaînerons avec une brève présentation de la filière ES présentée par Jérémy. Après le bac, évidemment, les études post-bac nous seront présentées par Prunelle. Une interview de l'entraîneur du sport et études équitation de Font-Romeu vous sera diffusée. Cette interview a été réalisée par Selena. Et pour clôturer notre émission, nous continuerons sur le sport avec Paul qui nous présentera le ski alpinisme. Alors tout de suite, nous commençons avec Loïc. Bonjour Loïc, quelles sont les actualités ?
Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, crise en Guyane. Cazeneuve annonce l'envoi d'une délégation de ministres avant la fin de la semaine. Le plus cher pigeon du monde a été adjugé à 316 000 euros aux enchères samedi dernier, selon le site spécialisé Pipa. Pigeon Paradise. Il s'agit du pigeon le plus cher jamais vendu, blessé par un drone. L'encadrement de l'utilisation des drones est devenu une véritable question de sécurité publique. Un Américain a été condamné à de la prison pour avoir blessé deux personnes avec son appareil. Coup de feu à l'aéroport. À 8h30, dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly, un homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire. Il a été ensuite abattu par les forces de l'ordre. En Syrie, la Russie bloque l'offensive des Turcs. La présence de soldats à Moscou empêche la progression des Turcs d'Ankara, dans le nord contre les Kurdes.
Merci Loïc pour toutes ces informations. La parole est maintenant à Jérémy pour nous parler de la filière ES. Jérémy, c'est à vous.
Bonjour à tous. Le bac ES est un bac équilibré qui contient de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la géographie et des maths. Le bac ES implique une attention particulière à l'environnement socio-économique et à l'actualité qui vous entoure. Pour tous les jeunes terminales ES et ce bac, il y a des matières plus importantes que d'autres et qui comportent un plus gros coefficient, c'est-à-dire SES, sciences économiques et sociales, coefficient 7 ou 9, mathématiques, coefficient 5 ou 7, histoire-géo, coefficient 5, français, coefficient 4, et les deux langues qui sont indispensables pour partir à l'étranger, l'anglais, coefficient 3, et l'espagnol, coefficient 2. Après avoir eu le diplôme, les principaux métiers proposés sont magistrat, avocat, juriste. Je vous préviens que ce bac est très difficile. Il faut donc beaucoup travailler et donc réfléchir avant d'y aller.
J'espère que cette présentation pourra aider certains d'entre vous dans leur choix d'orientation. Merci Jérémy. Désormais, faisons place à Prunelle qui, dans la continuité des études du lycée, va nous parler des études post-bac. Prunelle, on vous écoute.
Eh oui Camille, avoir son bac, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Certaines personnes, après l'obtention de leur bac, ne poursuivent pas d'études. Pourtant, de nos jours, il existe une grande quantité de possibilités dans le domaine des études post-bac. Les études courtes d'environ 2 ou 3 ans concernent les BTS, brevets de technicien supérieur, ou les BTSA, brevets de technicien supérieur agricole, qui exigent une entrée sur dossier, un rythme de travail soutenu et une spécialisation très ciblée. À la fin, il y a souvent un diplôme professionnel qui répond aux besoins des entreprises. Il y a également les DUT, qui signifie Diplôme Universitaire de Technologie. Les DUT préparent à l'université dans un IUT. L'IUT offre les avantages de l'université, plus d'encadrement que la fac par exemple. Bien entendu, qui dit IUT dit rythme de travail soutenu, car il faut compter en moyenne entre 35 et 40 heures de travail par semaine. Les études DUT ouvrent les portes à beaucoup de secteurs d'activité. Enfin, les DUST, ou diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, ces derniers permettent aux personnes voulant continuer de courtes études à l'université de trouver plus facilement un emploi ou encore poursuivre des études plus longues. Mais qui dit DUST dit aussi entrée sur dossier et stage. En effet, il faut compter près de 8 à 10 semaines de stage dans l'année. Un peu à part de ce type d'études, il y a les classes préparatoires ou classes prépa. Elles sont accessibles aux bacheliers généraux, S, L ou ES, et parfois elles sont réservées aux bacheliers technologiques. Le rythme de travail est très soutenu, environ 6 heures de travail par semaine, d'après les statistiques. Sans oublier l'importante quantité de travail personnel à fournir et l'emploi du temps chargé. Les bacheliers des classes prépa ne sont admis que s'ils sont détenteurs d'un bac et sur leur dossier scolaire. Les notes de la première, de terminale, les appréciations des professeurs et la motivation sont également prises en compte. Il existe différentes classes préparatoires scientifiques, littéraires, économiques et sociales. Passons maintenant aux études plus longues, il y a encore plusieurs possibilités. Les licences. Pour s'inscrire en licence, il faut simplement avoir son bac ou un diplôme équivalent, de plus toutes les séries de bacs sont admises, mais on préconise quand même les bacs généraux. En général, la durée d'études est équivalente à 3 ans, mais elle peut durer plus dans certains cas. Une année de licence est divisée en 6 semestres. Une semaine correspond à environ 20 à 30 heures de cours. La licence n'est validée qu'au bout de 3 ans de travail par un contrôle continu et par un examen final. Après avoir validé sa licence, les bacheliers peuvent poursuivre sur un master. Les masters sont accessibles après le niveau de licence Bac plus 3. Ce type d'études est associé à l'excellence académique, à la professionnalisation et à la recherche. Le master exige donc un rythme de travail soutenu, en cours, les travaux pratiques et dirigés. Il faut également fournir un énorme travail personnel. Pour finir, le doctorat. Pour pouvoir poursuivre ce genre d'études complexes, il faut être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un diplôme équivalent. Le doctorat se poursuit dans les écoles doctorales où la durée d'études est d'environ 3 à 4 ans. Pendant ces années-là, la recherche se terminera par la rédaction d'une thèse. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les filières post-bac.
Merci Prunelle pour votre intervention. Changeons de sujet, place au sport avec une interview de l'entraîneur du sport-études équitation par notre chère Selena. C'est à vous.
Bonjour Carole, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui car Carole a accepté de répondre à mes questions sur la section équitation. Depuis combien de temps la section existe-t-elle ?
Alors bonjour, la section équitation elle existe depuis la rentrée 2012, donc ça fait 5 ans maintenant. Sachant qu'avant, il n'y avait qu'une sorte de sport-études, l'ex-pôle, où les cavaliers étaient recrutés en galop 7. Et la section a permis de recruter des cavaliers à partir du galop 3 et sur un rythme d'entraînement de 3 fois par semaine. Et donc ce rythme-là de section, il existe depuis 5 ans même.
Je voulais savoir ensuite en quoi consistaient les tests d'entrée en section équitation.
Alors, sur les tests d'entrée en section équitation, on prend bien sûr en compte le niveau initial du cavalier. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la même chose à un cavalier qui rentre au niveau galop 3 et à un cavalier qui rentre au niveau galop 7. Mais cela dit, il y a une constante, c'est-à-dire qu'on va regarder les cavaliers sur le plat à dressage et sur l'obstacle. Donc pour voir comment ils se débrouillent en position assise et en position en équilibre, ou sur les mouvements de plat ou sur l'enchaînement d'obstacles. Mais à chaque fois avec des niveaux de difficulté qui correspondent à leur niveau.
Les élèves du département sont-ils favorisés ?
Alors non, nous au niveau des tests d'entrée en section, ce sont les meilleurs qui sont choisis, donc c'est vraiment le niveau équestre qui compte. Maintenant, il y a quand même une sélection qui peut se faire parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de place à l'internat si par exemple l'élève a besoin de l'internat, ou s'il n'y a pas suffisamment de place pour rentrer en seconde, ce qui peut arriver certaines années, les élèves ne peuvent être pris en section parce qu'ils ne peuvent être scolarisés dans la classe demandée.
D'accord. Comment prépares-tu les entraînements de section ?
Alors, je prépare les entraînements en fonction des objectifs que je veux atteindre ou des compétences que je veux faire acquérir à mes cavaliers. Et donc, bien souvent, je repère un point technique à travailler et je construis ma séance en fonction de ce point technique. Et en saison de concours, c'est un peu plus, entre guillemets, du bachotage où on va préparer plus spécifiquement les différents tests qui vont être utiles pour le concours.
Comment crées-tu les groupes de section ?
Alors, les groupes de section, ils sont créés en fonction du niveau équestre, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir dans un même groupe des élèves de classes différentes. Et à l'inverse, dans une même classe de collège, par exemple en 5e, je peux avoir des élèves qui ne sont pas dans le même groupe de section. Parce que je privilégie l'homogénéité du niveau équestre. Aujourd'hui, cette année, donc l'année scolaire 2016-2017, il y a 3 groupes de section, avec 3 niveaux différents.
Que veut dire CCE ?
Alors CCE, ça veut dire concours complet d'équitation.
Et quel est l'objectif de ce complet ?
Le concours complet d'équitation, c'est une discipline équestre qui comporte 3 tests. Un test de dressage, un test de saut d'obstacle, en carrière avec des obstacles mobiles, et un test de cross avec des obstacles fixes et en terrain varié. Si on veut faire une comparaison, c'est un peu le triathlon de l'équitation. Et ça demande aux chevaux et aux cavaliers d'être très polyvalents.
D'accord. Quels chevaux sors-tu en particulier ? Et comment les attribues-tu aux cavaliers ?
Nous avons soit des chevaux du club, soit des chevaux de propriétaires. Et tous sortent sur les entraînements de section ou sur les cours du club. Et je les attribue aux cavaliers en fonction du niveau de chacun et en fonction des objectifs de la séance. Par exemple, certains chevaux sont plus difficiles et ne sont pas adaptés à des cavaliers moins expérimentés. Ou alors, j'ai l'objectif de former un couple en vue d'une compétition, donc je les attribue en fonction du cavalier qui les montre en compétition. Et globalement, ça tourne parce que Pour former un cavalier, il faut être capable de monter une multitude de chevaux différents. Des énergiques, des plus calmes, pour pouvoir savoir tout faire.
Quels exemples sont prodigués aux chevaux après les complets, par exemple?
Alors, après les complets, on privilégie la récupération. Donc, on vérifie que les chevaux ne se sont pas blessés, qu'ils n'ont pas d'atteinte sur les membres, donc de coups. On vérifie aussi qu'il n'a pas déféré, qu'il a bien ses quatre fers. On enlève les crampons qu'on a pu mettre pour le cross, par exemple, après un complet. On douche les membres pour favoriser le refroidissement des tendons et la récupération. On les fait marcher. Éventuellement, on peut mettre de l'argile aussi sur les tendons pour accélérer la récupération. On les fait marcher, on les fait bien boire. Et puis le lendemain, surtout, on fait une récupération dite active. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas au repos complet pour que les muscles puissent continuer d'évacuer l'acide lactique qu'ils ont créé pendant l'effort, ce qui revient aux courbatures, en fait.
Et as-tu des échanges avec nos professeurs principaux ou le proviseur?
Alors, lorsque j'ai des échanges avec vos professeurs, souvent en début d'année, concernant les plannings, les groupes, et après, si tout se passe bien, les échanges se limitent à un petit peu d'administratif, les conseils de classe ou l'organisation des tests, par exemple, sur le choix des dates. Et puis après, ça peut arriver que si un élève a un problème particulier, on puisse échanger avec les professeurs.
Merci Carole d'avoir répondu à toutes mes questions. Grâce à cette interview, je vous ai expliqué en quelques mots en quoi consiste ma passion et notre section, sans oublier que les résultats scolaires restent la priorité.
Merci Selena pour cette très belle interview. Clôturer notre émission, nous finirons toujours sur le sport avec Paul pour nous présenter un sport encore peu connu mais se développant à une vitesse considérable. Paul, on vous écoute.
Bonjour, je vais vous présenter le ski alpinisme. Le ski alpinisme, ou on peut dire aussi le ski de montagne, est une pratique du ski sur des terrains enneigés. Il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique comme les remontées mécaniques ou des parcours damés. Il peut être pratiqué en loisir ou en compétition sur des pentes parfois très fortes. L'ascension s'effectue grâce à un équipement particulier de la semelle, des skis appelés peaux de phoque, utilisés autrefois. Et aujourd'hui, elles sont remplacées par des matières synthétiques. Dans le ski alpinisme, en compétition, il y a plusieurs types de courses. Donc, il y a les vertical races qui durent entre 15 et 30 minutes. Ça consiste à gravir de 500 à 1000 mètres de dénivelé positif le plus vite possible sans manipulation. Et on compte au chronomètre que la montée. Les individuels, ce sont des longues courses qui durent entre 2h et 3h selon les distances avec des portages. Donc, les portages, c'est quand on met les skis sur le sac. C'est le plus souvent sur des crêtes. Les arêtes. Il y a des descentes, des montées, des dépotages. Alors, le dépotage, c'est quand on enlève les peaux du ski. Des repotages, quand on les remet avant de remonter. Et il y a souvent entre 2000 et 3500 mètres de dénivelé. Après, il y a les sprints. Donc, c'est des courses qui durent que quelques minutes, entre 2 et 3 minutes à peu près. Donc, ça consiste à faire un sprint sur 50 mètres, une montée suivie des conversions. Conversion, c'est pour pas glisser sur la pente, quoi. Et d'un portage et d'une descente en slalom. Les courses par équipe, c'est en gros c'est des courses à deux, en deux types individuels. Sauf qu'on a un coéquipier et qu'il faut un maximum d'écart de 30 secondes entre chaque manipulation. On possède de matériel ultra léger. Alors on a une paire de skis qui pèse entre 400 et 600 grammes, le ski. Des chaussures à peu près le même poids, un sac, un casque, des crampons, des bâtons. Et un conseil, si vous voulez lancer dans ce sport, faut d'abord acheter du matériel d'occasion. Car neuf, ça vaut très cher entre 2500 et 3000 euros.
Merci Paul, nous en savons maintenant plus sur ce sport. Et merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye !